Mesdames, Messieurs, merci d'avoir bravé le froid pour nous déplacer dans une région qui n'est pas plus chaude, comme vous le voyez. Lors du cours précédent, nous avons conclu l'examen des données concernant les lieux de culte situés à 5 ou 6 milles de Rome. Nous avons attiré notamment l'attention sur le vide relatif de la rive droite du Tibre. Cet état des choses s'est encore accru depuis que Filippo Coarelli, je vous l'ai dit, a déplacé sur la rive gauche le bois sacré de Robigo. C'est une hypothèse qui, ma foi, est peut-être fragile, puisque nous n'avons pas trace de la Via Claudia, mais elle a ses avantages aussi, puisque de l'autre côté, nous n'avons qu'une Via Claudia. Il y a certes un sacrarium de Liber Pater sur la Via Cassia, mais il s'agit d'un document d'époque impériale et de surcroît privé, appartenant à une grande famille. La communauté cultuelle y est limitée à la famille qui possédait une villa dans le voisinage du lieu de découverte. Un culte domestique du même type est attesté sur la Via Labicana, sur le domaine des Pompei ou des Gavi. Nous avons conclu ces premières réflexions en constatant qu'un certain nombre de cultes et de lieux de mémoire y sont indéniablement établis sur cette limite des 5 et 6 000, parfois à partir du 3e siècle avant notre ère, comme le temple de Fors Fortuna à la Maliana, mais que la plupart d'entre ces lieux de culte ou de mémoire ne sont attestés qu'au début de notre ère. Après cela, nous avons abordé la question d'un autre point de vue. Nous avons essayé de déterminer s'il y avait, et si oui, depuis quand, des lieux de culte romains implantés au-delà de cette limite du 5e, 6e mille. Nous avons commencé par le bois sacré de Pomona, de Pomone, sur la Via Ostiensis, au 12e mille, un bois sacré qui existait au plus tôt au 4e siècle avant notre ère. Nous avons ensuite examiné brièvement le bois sacré de Laverna sur la Via Salaria, dont l'emplacement ne peut hélas pas être précisé, donc il ne nous est pas très utile. Nous avons conclu par le site de Bovillae, près du 12e mille de la Via Appia, dont le passé mythique est grand, mais d'où nous ne connaissons que des traces effectives qu'à partir du 2e siècle avant notre ère. Le site se développa surtout à partir du début de l'Empire. En effet, une fois qu'Auguste eut été divinisé en 14 de notre ère, un sacerdoce qui devait célébrer son culte, celui des Sodales Augustales, les compagnons d'Auguste, fut créé. L'une des tâches de cette sodalité sénatoriale concernait la célébration du culte de la gens Iulia, la famille julienne, à Bovillae, où ils paraissent avoir eu leur siège officiel. Après, à en juger par la découverte dans les ruines d'un grand édifice, c'est le théâtre, dans une des pièces du théâtre, des copies épigraphiques des procès-verbaux de leur cooptation et de celles de leur président annuel. Voici cette liste pour les cooptations des Sodales Augustales, qui était donc fixée dans un local administratif qu'ils avaient à cet endroit. Là, vous avez les listes de l'époque de Vespasien, et vous avez également la liste des présidés magistri, des supérieurs de la annuelle de la sodalité. Ces documents sont conservés jusqu'au début du 3e siècle de notre ère. Donc, pendant tout ce temps-là, ce lieu de culte existait. Un sanctuaire de la gens Iulia fut construit sur place, nous le savons, 2 ans plus tard ou 1 an plus tard, en 16 de notre ère. Sans doute s'agit-il du grand bâtiment dont parlent les fouilleurs du début du XIXe siècle, qui était adjacent au théâtre. Et une statue du divin Auguste y fut dressée. À l'exception de la mention du grand édifice par les fouilleurs du XIXe siècle, le sacrarium et la statue d'Auguste ont disparu. Manifestement, d'autres constructions furent encore faites sur le site, puisqu'on y a retrouvé un théâtre et un cirque pour environ 8000 personnes. Ce cirque que nous avons déjà mentionné plus haut dans ces conférences à propos du coureur Fuscus. Nous savons par Tacite que des jeux y étaient célébrés pour la famille Julia, et nous pouvons considérer que les Sodales Augustales présidaient à ces jeux qui ne sont pas autrement attestés. Bovillae devint sous l'Empire une petite cité avec son Sénat, ses magistrats et ses prêtres. Nous reviendrons plus loin sur le cas très intéressant de Bovillae. Tous ces sites vont en permanence revenir. Nous allons nous promener en rond entre tous ces sites et vous verrez que de certains points de vue, ils sont tous intéressants, parfois plus, parfois moins. Soulignons pour l'heure que le site est aussi célèbre pour sa haute antiquité, puisqu'ils s'imaginaient être, eux, Albe la Longue, autrefois, c'est même dans leur nom qu'ils avaient ce titre. Et il est aussi célèbre pour sa haute antiquité que privé de toute source pour cette période ancienne. Le site est l'objet d'attention à partir du IIe siècle avant notre ère, comme nous l'avons vu par les inscriptions examinées la dernière fois. Même si nous considérons que les Iulii n'ont pas dû inventer les relations qui les rattachent à ce site, les célébrations ne doivent pas remonter très loin au-delà des IIIe, IVe siècles. Il est clair aussi qu'au IIe siècle avant notre ère, Bovillae était considéré comme un lieu de culte romain par la gens Iulia, par cette grande famille patricienne de Rome, même si celle-ci précisait que sa dédicace était faite selon la loi d'Albe, c'est-à-dire, comme je l'ai proposé, selon les rites du culte fédéral de Jupiter Lassiar, qui était célébré à cette époque sur le Monte Cavo. À ces deux exemples de dépassement de la limite du 6e, 5e mille, nous pouvons joindre un rite qui fut célébré en 207 avant notre ère. Cette année-là, la foudre avait frappé le temple de Junon, reine, sur l'Aventin, et les aruspices que l'on avait consultés à propos de ce prodige avaient répondu qu'il concernait les matrones et qu'il, Junon, reine, bien sûr, divinité matronale, les matrones sont concernées par ce prodige, et il convenait d'apaiser la déesse par un don. À cet effet, les édiles curules convoquèrent au Capitole toutes les matrones, et c'est ça qui nous intéresse maintenant, domiciliées à Rome et en deçà de la 10e borne millière. La convocation est proprement romaine, c'est un culte de la ville de Rome, au Capitole, et elle appelle au Capitole des personnes qui doivent célébrer un rite urbain. Sont donc convoquées toutes les personnes, ici des femmes évidemment, directement concernées par les devoirs religieux de la ville de Rome, puisque nous en sommes, et ce sont donc les matrones, en deçà de la 10e borne millière. Nous sommes bien au-delà de la 6e, n'est-ce pas? Et puisque nous en sommes aux matrones, nous pouvons citer un lieu de culte de la Ligue latine qui faisait partie des dévotions dont les matrones de Rome avaient la charge. Il s'agit du bois sacré de Nemi, dans les monts Albains. Le lieu de culte était situé dans un lucus, littéralement une clairière, au cœur d'un bois appartenant à la cité d'Aricie. Le site se trouvait, comme vous le voyez, dans un cratère volcanique au-dessus d'un lac appelé Miroir de Diane, parce que Diane, la lune, par métonymie, se regardait dans ce lac, n'est-ce pas ? D'après Caton d'Ancien, d'où on sait que le bois sacré se trouvait dans le bois d'Aricie, le lucus de Diane dans le bois d'Aricie, le bois sacré et son autel auraient été fondés par Egerius Laevius, originaire de Tusculum, lorsqu'il fut dictateur des Latins, d'une alliance latine donnée. Mais le lieu est plus ancien. Des fouilles récentes ont permis d'identifier une zone avec des charbons remontant au XIIIe, Xe siècle avant notre ère, et du matériel cultuel datant entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère a également été retrouvé. Des fouilles se sont déroulées sporadiquement à cet endroit depuis le 16e siècle, sans parvenir toutefois à une connaissance très précise du lieu de culte. Heureusement, la surintendance du Latium a repris récemment de nouvelles explorations dont Filippo Coarelli, vous vous le rappelez peut-être, est venu vous parler il y a deux ou trois ans, je ne me rappelle plus. Un plan de l'ensemble du site commence maintenant à se dessiner. Comme on le savait déjà, le Lucus de Diane se développe sur plusieurs terrasses. En haut se trouve un nymphée avec une citerne. Peut-être s'agit-il de la source Égérie, dont parle Strabon dans ce texte, n'est-ce pas, où il cite le bois sacré, où il raconte l'histoire de l'esclave fugitif, du prêtre, et aussi la source Égérie, du nom de quelques divinités qui étaient à l'endroit. Et peut-être est-ce le nymphée d'Égérie. Une terrasse plus bas, voilà la même chose en plan, le nymphée en haut, une terrasse plus bas, plusieurs pièces contiennent des fontaines aussi. Vers le bord de cette terrasse ont été découvertes les traces de l'âge du bronze. Des escaliers conduisent ensuite vers la terrasse inférieure. L'angle oriental de cette terrasse était occupé par une double colonnade fermée par un mur du côté de l'esplanade. Au 1er siècle avant notre ère, on aménagea dans l'angle occidental de cette esplanade des pièces, dites « alae », « elle », littéralement, qui servaient de dépôt pour des statues et des offrandes. À la même date furent construits des thermes et un théâtre. Un temple occupe l'espace situé entre l'esplanade et les thermes, un temple qu'on attribue communément à Diane. Une inscription avec un inventaire des bijoux, vêtements et autres propriétés de la déesse nous apprend d'ailleurs qu'il y avait quelque part sur cette terrasse un double sanctuaire d'Isis et de Bubastis. Les travaux sur la Diane de Némie et ses origines helléniques ont suscité de très nombreux travaux qui sortent complètement du cadre de notre étude. Qu'il nous suffise de dire que son image cultuelle était triple, comme ainsi que l'atteste le revers d'une monnaie, du monétaire Acoleus Lariscolus, qui date de l'époque césarienne. Vous voyez la triple statue. Vous connaissez aussi la tradition du roi Némorensis, le roi du bois, littéralement, de Némie, qui était le principal prêtre de l'endroit, enfin, d'après les traditions, d'après une vieille loi sacrée. Cette divinité, voilà le récit chez Servius, d'après une vieille loi sacrée, disais-je, cette dignité s'acquérait par un duel avec le détenteur du titre, pendant lequel un rameau cueilli sur un arbre de bois devait servir d'arme. Vous vous rappelez peut-être que dans l'Énéide, Virgile s'est inspiré de cette tradition pour faire de la cueillette d'un rameau d'or, cueilli à proximité du lac Averne, près de Cume, cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec notre site. Donc Virgile fait de cette cueillette un rite qui permettait d'accéder aux enfers. Mais Énée cueille ce rameau en Campanie et non dans le Latium. Il est évident qu'après la soumission définitive des Latins, le bois sacré de Némie devint un lieu de culte romain, même si les visiteurs continuaient d'affluer de partout. D'autre part, les magistrats romains semblent avoir fait des dédicaces dans le Lucus, tel ce Gaius Aurelius, fils de Gaius, consul en 200 avant notre ère, qui fit une dédicace à la déesse lorsqu'il fut préteur pour la deuxième fois, donc en 201. Une année auparavant. La dédicace précise qu'elle avait été faite au nom du peuple romain, mais c'est envisageable étant donné les fonctions de prêteur du dédicant. Peut-être les prêteurs avaient-ils une obligation religieuse à remplir dans ce bois sacré. Vous verrez que ça reviendra assez souvent, que les prêteurs doivent aller sacrifier dans les alentours de Rome. Nous savons aussi que chaque année, lors de la fête de Diane, le 13 août, les matrones romaines se rendaient de nuit à Némie, couronnées et portant des torches, comme il convient à cette Diane, associée à la lune et à Hécate. Nous savons aussi que l'empereur Claude, au moment de son mariage avec sa nièce Agrippine en 49 de notre ère, fit offrir à Némie par les pontifes des sacrifices expiatoires. On a d'ailleurs retrouvé dans le sanctuaire la dédicace, vous l'avez ici, d'une lampe perpétuelle faite sur l'ordre de Diane, qui avait sans doute était apparue en songe à quelqu'un, pour le salut de Claude, d'Agrippine, de Britannicus et de Néron, toute la famille impériale. Autrement dit, depuis le IIIe siècle avant notre ère au moins, les Romains effectuent des actes cultuels publics dans le bois sacré de Nemi, et il faut considérer ce lieu de culte comme un lieu de culte de la ville, comme un lieu de culte urbain. Un autre rite romain pourrait être cité ici, celui des Vinalia Rustica, les vendanges à la campagne. Le 19 août, en effet, le Flamine de Jupiter ouvrait les vendanges en coupant la première grappe de raisin au cours d'un sacrifice au dieu Jupiter. Littéralement, il prend les auspices de la vendange, auspicatur windemiam, c'est-à-dire qu'il ordonne de commencer les vendanges et sacrifie un agneau, et puis, sur la fraissure de cet agneau, avant de l'offrir, il dépose la première grappe de raisin qu'il cueille, et il brûle le tout. Et l'on ne pouvait pas commencer les vendanges avant que cette sorte d'annonce rituelle ait été faite. Varron utilise le verbe calare. Je ne vois pas où... calentur, antequam vinalia calentur, avant la proclamation des vinalia. Varron rapporte donc que dans plusieurs points du Latium, on procédait ainsi, et il donne l'exemple de Rome et celui du territoire de Tusculum. Varron ne précise malheureusement pas où avait lieu le rite qu'il décrit. Comme Georg Wissowa l'a supposé, c'était certainement à la campagne, pas en ville, sans doute dans un vignoble public appartenant aux prêtres ou à la République, que le Flamine célébrait ce rite. Il est question chez Varron du Latium de façon générale, et l'on pourrait parfaitement imaginer, dans ce cas encore, que le Flamine s'éloignait pour se faire de Rome vers l'un des vignobles suburbains plus ou moins lointains. Et les vignes étaient plutôt du côté des Castelli, comme nous disons aujourd'hui, vers les monts Albins. D'après la règle de Tusculum, nous pourrions supposer qu'avant ce sacrifice et l'annonce du Flamine, on ne pouvait pas introduire du vin nouveau dans la ville de Rome. Mais comme je l'ai dit, nous ne pouvons malheureusement pas utiliser cet argument jusqu'au bout, parce qu'il est trop imprécis. Quoi qu'il en soit, la convocation de 207 avant notre ère prouve qu'à cette date, le terme générique de matrone qu'emploient les aruspices ne désignait plus celles qui habitaient à l'intérieur de la ville ou à l'intérieur de la limite même du premier mille, voire des 5 ou 6 mille, mais désignait toutes celles qui étaient domiciliées à moins de 10 000 miles de Rome. De 10 000 de Rome, donc 15 kilomètres. Quelle était donc, dans l'esprit des autorités, la limite de Rome à la fin du IIIe siècle avant notre ère? De même que le bois sacré de Pomone ou le culte des Iulii à Beauvillet, ces témoignages attestent donc l'existence d'une frontière romaine qui dépasse nettement les 5 ou 6 000. Nous sommes même au-delà de la distance de 9 000 admise par nos prédécesseurs comme limite du territoire proprement romain sous l'Empire. Toutes ces distances sont certes conventionnelles et ne représentent pas forcément une réalité. Elles prouvent néanmoins que dès le IIIe siècle avant notre ère, une limite comme celle du VIe mille n'a aucune valeur juridique contraignante. Il y a deux autres arguments qui montrent que tel était déjà le cas au IVe siècle. Nous avons visité, la fois dernière et tout à l'heure, le site de Beauvillet, qui revendiquait l'héritage de la métropole détruite Albe la Longue. Regardons maintenant de plus près les rites annuels célébrés à Albe. L'histoire du site d'Albe la Longue était en partie mythique, mais les sacrifices annuels ne l'étaient pas. Le temple de Jupiter du Latium, qui se trouvait au sommet du Monte Cavo, était le siège d'un culte collectif des 30 peuples de la Ligue latine. Chaque année, les délégués des 30 peuples latins s'y retrouvaient pour sacrifier ensemble, sous la direction de Rome, un bœuf blanc à Jupiter. C'est d'ailleurs de ce bœuf que Bovillae aurait tiré son nom, d'après la légende. Vous l'avez, je crois, là-dessus. L'institution était censée remonter à Tarquin le Superbe. Tarquin, écrit Denis d'Halicarnasse, soucieux de voir durer tout le temps les conventions prises avec ces cités, décida de fixer un sanctuaire commun aux Romains, Latins, Herniques et Volsques, c'est-à-dire toutes les populations au sud de Rome, en fait, qui avaient souscrit cette alliance, afin que, se réunissant chaque année au lieu fixé, ils célèbrent ensemble une fête et un banquet et participent à des sacrifices communs. Pour que tous soient satisfaits, ils choisissent comme lieu de leur future réunion, situé le plus possible au milieu des peuples, une montagne élevée, celle qui domine la cité des Albins. C'est là, édicta-t-il, qu'ils se réunirent chaque année pour une fête solennelle, qu'il y aurait une trêve pour tous envers tous, qu'on célébrerait des sacrifices communs à Jupiter dit Latial, et qu'ils participeraient à un banquet collectif. Il fixa ce que chaque cité devait fournir pour ses sacrifices, ainsi que la part que chacune devrait en recevoir. Ces fêtes, avec les sacrifices qui les accompagnent, sont célébrées encore de nos jours, écrit-il, par les Romains, c'est-à-dire au début de l'Empire, quand écrit Denis d'Halicarnasse. Ces fêtes, qui les appellent latines, et parmi les cités qui participent aux offrandes, les unes apportent des agneaux, les autres des fromages, les autres encore une mesure de lait, d'autres choses semblables, il semblerait qu'il s'agisse d'une sorte de miel que les peuples apportaient, mais elles sacrifient ensemble un taureau et chacune en prend la part qui lui a été assignée. Le sacrifice est fait pour tous et la direction de la cérémonie est assurée par les Romains. Nous n'allons pas nous interroger sur l'historicité du rôle attribué dans ce texte à Tarquin. De toute façon, il est peu probable qu'au VIe siècle avant notre ère, les Romains aient eu les moyens de s'imposer de telle manière aux cités latines, alors que les siècles suivants furent témoins de nombreuses guerres qu'ils menèrent contre leurs partenaires du partage sacrificiel effectué au Monte Cave, notamment à l'égard des Volsques. L'institution existait peut-être sous la forme de réunions entre peuples latins, telles qu'elles avaient lieu à Némie ou au bois sacré appelé Ferentinus, qui lui aussi était situé près du lac de Némie. Des réunions qui correspondaient d'ailleurs au modèle des alliances entre cités ou peuples, telles qu'elles sont connues dans la Méditerranée classique. L'endroit se prêtait à une réunion de ce type parce qu'il était visible de presque toutes les cités du Latium. L'obligation religieuse fut sans doute imposée au plus tard lors de la défaite des Latins en 338 avant notre ère, lorsque Rome s'installe dans son leadership définitif sur les cités du Latium. C'est à partir de cette date que le rituel du mont Albin a pu prendre la forme qu'il a au début de notre ère. L'emplacement du rite et du temple de Jupiter Latiaris est l'objet d'hypothèses et de recherches, puisqu'il n'a pas été entièrement fouillé et correctement retrouvé. Des inscriptions, je vous ai montré un plan tout à l'heure, qui est dû notamment à Mme Checamore et pour l'instant les recherches continuent. Des inscriptions ont été retrouvées sur place avec des restes du décor architectural sur le Monte Cavo en un endroit appelé Campi di Annibale et qui n'ont absolument rien à voir avec le général carthaginois. À côté d'un ex-voto du consul de l'année 29, Lucius Rubellius Geminus, on a découvert une série de plaques avec le registre des célébrations des féries latines. Voici un exemple des années 72-74 dans la première colonne, puis des années 106 à 109 de notre ère dans la seconde. Vous lisez à chaque fois sous le nom des consuls la formule lat fuer, c'est-à-dire latinae fuerunt, feriae latinae fuerunt. Les féries latines eurent lieu à telle date. Et ensuite, il y a la date mensuelle. Si l'existence d'Albe la Longue, donc on sait qu'en gros, ça se passe à cet endroit où on a commencé maintenant à retrouver des murs et des éléments divers, puisque des fastes, des célébrations y ont été retrouvées. Si l'existence d'Albe la Longue est loin d'être certaine, celle d'un grand lieu de culte où confluaient à certaines dates les magistrats romains et sous l'Empire même les empereurs, en même temps que les délégués des cités latines, est assurée. Or, cette cérémonie relativement folklorique, qui durait plusieurs jours, est importante pour notre enquête. D'abord, à l'époque historique, la célébration à Albaine fait partie des devoirs religieux et politiques qui incombent aux magistrats suprêmes de Rome, aux consuls, aux éventuels dictateurs, aux prêteurs, bref, à tous les détenteurs du pouvoir suprême. Car pour que leur pouvoir soit légitime, il ne suffit pas qu'ils soient élus, qu'ils soient investis de leur charge à Rome au Nouvel An. Il faut également qu'ils aillent encore au Mont Albin pour concélébrer le sacrifice à Jupiter Laciaris. L'exemple terrifiant du consul Flaminius, qui au début de la Deuxième Guerre punique, en 217 avant notre ère, se dispensa de monter sur le Monte Cavo et partit tout de suite pour rejoindre son armée, et là pour souligner la nécessité du rite dans l'esprit des Romains. Vous savez ce qui arriva à Flaminius. L'armée d'Hannibal détruisit les légions romaines au lac Trasimène, près de Cortone. Et les Romains d'attribuer le désastre au manque de respect que Flaminius avait témoigné aux hommes. Il était parti sans négocier sur sa charge, sur son plan d'action avec le Sénat. Et il avait témoigné aussi de manque de respect aux dieux. Il n'avait ni formulé les vœux pour le salut de la République au Nouvel An, ni célébré les féries latines. Il était en somme parti, comme l'écrit Tite Live, comme un particulier. Il l'écrit ailleurs, privatus. En fait, c'est un peu plus compliqué. Flaminius avait certes offensé le Sénat, puisque l'usage voulait que les consuls négocient avec lui sur la nature de leur province, c'est-à-dire les compétences et la mission qui seraient les leurs pendant leur année de pouvoir. Cela se faisait notamment au cours de la cérémonie de l'acquittement des vœux échus et de la formulation des nouveaux vœux pour le salut de l'État. Mais du point de vue religieux, le manquement n'était peut-être pas aussi grave que Tite Live et les ennemis de Flaminius le prétendaient. Dans son livre récent sur Albe la Longue, Alexandre Grandazzi a attiré à la suite d'Attilio De Grassi l'attention sur les fastes des féries latines qui mentionne la célébration de l'année 217 avant notre ère, qui est précisément celle du consulat de Flaminius. Cela peut signifier, on voit parfaitement, que les jeux ont eu lieu. Et c'est sans doute l'autre consul qui a dû les célébrer. Cela peut donc signifier que la tradition ou l'inscription ont été truquées. Ou bien, et c'est là, je le répète, la proposition d'Attilio De Grassi et d'Alexandre Grandazzi, que c'est par exemple le collègue Servilius Geminus de Flaminius qui a célébré les féries latines. Ce qui peut parfaitement arriver, et la tradition a conservé des exemples où les féries latines sont présidées par un seul consul. Le même consul a pu acquitter, d'ailleurs, et formuler à Rome même les vœux publics du début de l'année. Il est donc parfaitement possible que Flaminius ait invoqué l'urgence pour laisser la célébration de ses rites à son collègue, conformément à l'usage dans ce genre de situation. Ce sont alors ses adversaires qui ont transformé une procédure somme toute légale en impiété, en cette impiété qui avait détourné les dieux de la cause romaine et qui expliquait le désastre du lac Trasimène. Toutefois, les reproches formulés à l'encontre de la procédure, justifiée ou non, choisie par le consul qui avait entraîné dans la mort une armée romaine, laissent entendre que la célébration des féries latines était nécessaire pour qu'un consul puisse exercer le pouvoir à l'extérieur de Rome. Le pouvoir des consuls n'était complet, n'était légitime que s'ils s'étaient acquittés de ce devoir. La raison en est peut-être que dans la tradition romaine, le pouvoir militaire des consuls de la République était lié au commandement des alliés, ces alliés italiques dont les peuples latins formaient la projection symbolique. Les féries latines constituaient par conséquent un élément central dans le droit public romain, puisqu'elle dépendait du pouvoir du magistrat suprême romain. Il n'est donc guère surprenant que le sanctuaire de Jupiter Lassiaris soit considéré comme faisant presque partie de Rome, ainsi qu'Alexandre Grandazzi le remarque avec justesse. Il signale notamment que Tite-Live écrit les féries latines, que les féries latines se déroulaient à Rome, Romae. Il s'agit du départ des consuls de 212 avant notre ère. À Rome, écrit Tite-Live, les féries latines retinrent les consuls et les préteurs jusqu'au cinquième jour avant les calendes de mai. Ce jour-là, après avoir célébré le sacrifice sur le mont Albin, ils partirent chacun pour leur province. Et comme Tite-Live le note ailleurs, c'est après avoir acquitté leurs devoirs religieux, religiones, que les consuls gagnèrent leur province. Cet enchaînement revient à plusieurs fois dans nos sources. C'est une fois cette célébration effectuée que les magistrats partent, peuvent partir légalement, car leur pouvoir sur l'armée romaine, comprenant aussi les alliés, notamment les alliés latins, se trouve désormais légitimé. Il n'est donc pas trop audacieux de supposer qu'à partir d'une date donnée, peut-être les années consécutives à la soumission des Latins, 338 avant notre ère, les Romains aient décidé que ces rites faisaient désormais partie des obligations religieuses de la cité de Rome. Ce qui est d'autant plus probable que le sacrifice au mont Albin n'est pas la seule obligation religieuse requise pour que le pouvoir des magistrats romains acquiert sa légitimité. Un autre site entrait également en ligne de compte, l'Avinium. Situé à 19 milles de Rome, nous sommes déjà très loin, l'Avinium était lié au mythe d'origine des Romains. C'est ici, sur la plage en face de l'Avinium, qu'Énée et ses Troyens auraient débarqué après l'errance consécutive à la prise de Troie. Rappelez-vous les premiers vers de l'Énéide. « Je chante les combats du héros qui, fuyant sous l'effet du destin les rivages de Troie, parvint le premier au bord de l'Avinium. » Les héros y auraient reçu des signes indubitables de la fin de son errance. Il aurait su fonder avec son fils Ascagne, ou Iule, la dynastie qui régnera sur Albe et le Latium pré-romain, ainsi que le rappelle en quelques mots Varron. La première cité de souche romaine fondée dans le Latium fut l'Avinium. C'est là, en effet, que se trouvent nos dieux pénates. Cette cité fut désignée d'après le nom que portait la fille de Latinus, l'épouse d'Énée, Lavinia. 30 ans plus tard, se fonde une deuxième cité, Albe. Celle-là fut ainsi nommée du fait de la truie blanche, Alba. Cette truie, après avoir quitté le vaisseau d'Énée et s'être réfugiée à l'Avinium, mit bas 30 porcelets. À la suite du prodige qui est représenté sur l'autel de la paix, l'Arapacis à Rome, donc à la suite du prodige, 30 ans après la fondation de l'Avinium, s'établit la nouvelle ville dite Alba Longa, d'après la couleur de la truie et l'aspect du lieu. C'est de là que naît Réa, mère de Romulus, c'est de Réa que naît Romulus lui-même, c'est de Romulus que naît Rome. En 338 avant notre ère, l'Avinium, que Denis d'Halicarnasse appelle la métropole des Latins, avait été, de la nation latine, avait été soumise, comme les autres cités latines, au pouvoir des Romains. La ville se vida d'ailleurs de ses habitants, et au début de notre ère, c'était une campagne vide, comme tant d'autres cités du Latium primitif. Pourtant, chaque année, les magistrats et les prêtres romains, les flamines et les pontifes s'y rendaient pour célébrer en l'honneur de Vesta, des dieux pénates, des sacrifices appelés les sacra principia populi romani quiritium nominisque latini quae apotlarentis coluntur. Autrement dit, les rites primordiaux du peuple romain, des quirites, ainsi que du peuple latin, qui sont pratiqués chez les Laurentes étant les citoyens de l'Avinium. Les rites comprenaient également, donc il y a les pénates, il y a Vesta, et les rites comprenaient également des sacrifices à Indiges, que les érudits interprétaient comme Aene Indiges. Ces sacrifices étaient faits en vertu d'un traité conclu en 338 avec les Laurentes de Lavinium, et qui, fête unique, était renouvelée chaque année 10 jours après les féries latines, vraisemblablement, 10e jour après les féries latines, vraisemblablement en prélude au sacrifice. D'abord, on renouvelait solennellement l'alliance, et puis on faisait tous ces sacrifices. Les magistrats romains se rendaient donc à Lavinium après leur prise de fonction de la même manière qu'ils allaient au Monte Cavo. C'est ce que rapporte Macrobe dans un commentaire d'un passage de l'Énéide, 2 vers 296, dans lequel le poète appelle Vesta potens, puissante. Il s'agit de savoir ce que c'est potens. Ce qualificatif, également porté par les dieux pénates, rappelle Macrobe, lui vient de ce qu'elle était soit l'une de ses divinités, soit leur campagne. Cette association apparaît dans le fait que les consuls, préteurs et dictateurs lui sacrifient à Lavinium en compagnie des pénates quand ils prennent leurs fonctions. Le même commentaire qui peut remonter, comme souvent dans ce cas-là, peut se retrouver à Varron, se retrouve chez Servius, le commentateur de Virgile, mais avec un lapsus, puisqu'il écrit que ces magistrats sacrifient aux pénates et à Vesta à Lavinium lorsqu'ils quittent ap eunt leur charge. Peut-être que Servius ou un scribe était troublé par le fait que les magistrats qui partaient pour leur province offraient auparavant ce service, comme il l'écrit dans un autre commentaire. Ce serait donc en quittant leur fonction urbaine pour exercer désormais leur pouvoir en Italie ou dans une province qu'ils auraient sacrifié, d'où la confusion dans le commentaire précédent, peu importe. Valère Maxime a conservé un exemple de cette obligation. Il raconte que lorsque Hostilius Mancinus partit pour sa catastrophique guerre en Hispanie, il reçut un certain nombre de signes inquiétants dont il ne tint pas compte. Ainsi, lorsqu'il voulut sacrifier à Lavinium, ce sont les rites d'entrée dans ses pouvoirs, hein, maintenant vous le savez, lorsqu'il voulut sacrifier à Lavinium, les poulets rituels, une fois sortis de leur cage, se seraient enfuis dans le bois voisin et n'auraient plus pu être retrouvés. Cette anecdote, soit dit entre parenthèses, est intéressante pour la reconstitution des rites sacrificiels, puisqu'elle semble impliquer qu'avant de sacrifier, le consul consultait les auspices à l'aide des poulets rituels pour voir si le sacrifice était opportun ou non. Ce dont il n'est jamais question dans les autres descriptions de sacrifices publics, c'est un unicum. Ou alors s'agissait-il d'un rite d'investiture comme celui qui se déroulait à Rome le premier jour de sa charge et qui se serait déroulé dans le lieu primordial de l'histoire romaine, à Lavinium. À Rome, quand le consul prend ses fonctions, son premier geste, c'est de prendre les auspices pour voir si Jupiter approuvait son entrée en charge, et ensuite il allait sacrifier au Capitole pour les vœux, justement, pro salute, pour le salut de l'État. Donc peut-être une cérémonie semblable ici, ou alors à chaque fois qu'on faisait un sacrifice public, il fallait prendre les auspices auparavant. Les magistrats n'étaient d'ailleurs pas seuls lors de ce sacrifice. D'après les Scoli de Vérone à l'Énéide de Virgile, les pontifes accompagnaient chaque année les consuls et sans doute les autres détenteurs du pouvoir de commandement suprême lorsque ceux-ci allaient sacrifier à Lavinium. Si nous considérons l'inscription de Spurius Turanius, qui date de l'époque de l'empereur Claude, à en juger par la lettre claudienne, qui a la forme d'un F inversé, F majuscule inversé, pour exprimer le V, le W, Q, consonantique romain, et qui permet de dater l'inscription entre 48 et 54 de notre ère très sûrement, nous pouvons considérer, d'après cette inscription, que le site était en fait entièrement romain. Vous trouvez sur cette inscription ce titre de ces rites sacra principia populi romani quiritium nominisque latini quae apud Laurentis coluntur, que j'ai lu tout à l'heure. C'est le titre officiel de ces cérémonies. Et désormais, on a l'impression que c'est un site entièrement romain, disais-je. Car depuis cette époque au moins, les partenaires du pater patratus, de ce magistrat particulier chargé de construire, de conclure chaque année le traité avec le peuple de l'Avinium, ainsi que les prêtres et les magistrats lavinates, ou laurentes pour parler comme Virgile, chargés de célébrer les cultes de l'Avinium, qui correspondraient aux rites primordiaux des peuples romains et latins, eh bien tous ces gens-là, le pater patratus, les prêtres de l'Avinium, les magistrats de l'Avinium, c'étaient tous des Romains. Leur nom était Laurentes Lavinates, Laurentes Lavinates, les Laurentes de l'Avinium. Ils étaient des Romains de rang équestre, appartenant donc à l'aristocratie romaine, mais à un rang subordonné, ainsi qu'il convenait pour un peuple soumis à celui des magistrats et des prêtres romains qui venaient sur place et qui étaient de rang sénatorial et supérieur, comme il convient aux Romains, bien entendu. Autrement dit, les Romains eux-mêmes formaient le peuple fictif des Laurentes de l'Avinium, en observant de subtiles différences de hiérarchie entre ceux qui célébraient les rites. Ces prêtres et ces magistrats ne vivaient pas à l'Avinium, les Laurentes Lavinates, et n'en étaient pas du tout originaires, car la ville était à l'époque historique, au début de notre ère, un grand lieu de culte et rien d'autre. Notre Turanius, qui est originaire de Pompéi, fut par exemple à l'Avinium, Flamine de Jupiter, Flamine de Mars, Salien, Augure, Pontife, ainsi que préfet chargé de dire le droit. Nous ignorons s'il a cumulé toutes ces charges que son inscription, vous le voyez, énumère, ou s'il les a revêtues successivement, comme dans les autres cités d'Italie ou des provinces. Et souvent, ces inscriptions, ces dignités se prennent l'une après l'autre. Ici, nous ne savons pas s'il cumulait tout cela. En tout cas, les Laurentes Lavinates accomplissaient à l'Avinium un service politico-religieux qui consistait à entretenir le site, à veiller à son fonctionnement, notamment en collectant des fonds, et ensuite à concélébrer chaque année, en tant que contrepartie lavinate des magistrats romains qui venaient de Rome, le culte des Pénates et de Vesta, qui était réputé donc être originel. Cette institution étrange des Laurentes Lavinates de rang équestre peut remonter à la guerre de 338 et au traité qui fut conclu à cette occasion. C'est peut-être là qu'ils ont été instaurés, puisque, si l'on en croit Tite Live, les citoyens de l'Avinium étaient restés fidèles à Rome pendant cette guerre et ne furent donc pas punis. Ils furent sans doute chargés de célébrer les rites communs avec les Romains. Nous ignorons depuis quand le site de l'Avinium servait de cadre à ces rites primordiaux et à partir de quand on a mis à la place de ce peuple désormais éteint des Romains. Tite Live, bien sûr, n'hésite pas à faire remonter ces rites à l'époque de Romulus, puisque Titus Tassius, le compagnon de Romulus dans la royauté, avait été assassiné à l'Avinium lors des sacrifices annuels, c'est ce que racontent les mythes. Et un nouveau traité avait alors été conclu, qui implique sans doute l'extraordinaire procédure du traité annuel conclu avec les Laurentes. Plus utilisable pour notre propos est une anecdote de l'année 103 avant notre ère, qui prouve que l'obligation de sacrifier à l'Avinium existait déjà à cette date. C'est le témoignage explicite le plus ancien. Cette année, en effet, Gnaeus Domitius, un des ancêtres de Néron, était tribun de la pierre, de la plèbe. Comme les Aénobarbies, il avait mauvais caractère. Il était furieux parce qu'un certain Scaurus ne l'avait pas coopté dans le collège des augures. Il lui fixa donc un jour pour un procès devant le peuple et exigea contre lui une amende. Il invoquait contre ce Scaurus comme grief qu'à travers ses actes, les rites du peuple romain avaient été méprisés et précisait qu'il n'avait pas effectué avec la correction et la pureté voulue les rites publics romains des dieux pénates qui étaient célébrés à Lavinium. Nous pouvons considérer que l'obligation remontait au traité conclu après la défaite latine de 338 et avait pour conséquence de rendre ces cultes communs aux Latins et aux Romains. Désormais, en tout cas, au plus tard en 103 avant notre ère, peut-être déjà plus tôt en tout cas, Lavinium était un lieu de culte romain au même titre que les temples situés à Rome ou dans l'espace suburbain immédiat. Ce qui montre que dès la fin du IVe siècle, la limite du territoire romain avait dépassé et de loin les limites du VIe mille. Et bien entendu, vous avez compris que le récit de Tite-Live où ce serait Titus Tacius qui aurait déjà célébré ces rites, c'est une projection dans le passé des rites qui se célébraient de ces jours. Ce n'est pas un document historique. Voilà. Si la date du début des rites romano-lavinates peut être fixée à titre hypothétique aux années postérieures à 338, c'est parce qu'à cette même date, les Romains conclurent un accord du même type avec la cité de Lanuvium, à ne pas confondre avec Lavinium, qui était située à environ 20 milles de Rome. Les Romains mirent en commun avec les citoyens de Lanuvium le culte de la principale divinité de la cité, Iunos Hispes ou Sospita Mater Regina. Les Romains écrivent souvent Iuno SMR, dont vous voyez ici une dédicace. Iuno Hispes Mater Regina. Le culte de la déesse était célébré sous la surveillance des pontifes de Rome par un dictator Lanuvinus, donc un dictateur de Lanuvium, et un flamine nommé par ce dernier, ainsi que par le sacerdoce des sacerdotes Lanuvini, prêtres lanuvins de Lanuvium, qui étaient eux aussi des chevaliers romains, même chose que les Laurentes Lavinates. Les consuls romains devaient également y offrir un sacrifice annuel à la déesse. Ça aussi, on l'ignore souvent, vous voyez, donc à Iunos Hospita, comme écrit Cicéron dans le Promurena, à qui tous les consuls sont tenus de sacrifier tout justement son compatriote et son consul pour Murena. Nous avons ces détails très précieux grâce à un assassinat politique célèbre dont nous avons déjà parlé, celui de Clodius, que nous avons rencontré sur le lieu du crime à Beauvillet. Car Milon, le responsable de l'assassinat, qui était de haute famille et se présentait en 53 à l'élection au consulat, était précisément, à cette époque en tout cas, dictateur de Lanuvium, donc quelqu'un de Rome qui est futur consul, qui est dictateur de Lanuvium, sa patrie. À la fin de l'année, il se rendait à Lanuvium précisément pour nommer un flamine. Et c'est là qu'il rencontra son rival Clodius. Et les deux meneurs étant accompagnés chacun par des partisans et une bande de gladiateurs, une bagarre éclata dont l'issue est connue. Cela nous montre qu'à cette date, la fonction de dictateur était tenue par des personnes de rang sénatorial à Rome. Le commentateur Asconius nous apprend en outre que Milon était originaire même de ce municipe. Il devait sans doute choisir le flamine local, que nous connaissons d'ailleurs pas celui qu'il a choisi, mais la fonction, nous la connaissons par des inscriptions telles celle-ci, où un certain plutôt celle-ci, où un certain Gaius Agileius Mundus, fils de Gaius, fils de Gaius, est roi d'Érythe, et dit Flamine de Jupiter, Junon sospes mater regina. Donc c'est ce genre de Flamine que Milon est allé choisir, prendre à Lanuvium. On en a un autre qui est celui-ci, qui fait une dédicace à Sylvanus. C'est un certain Decimus Granius Celer, qui est Flamen Maximus, grand Flamine, et il est de la tribu Palatina, c'est-à-dire lui est un affranchi, étant donné la tribu dans laquelle il est inscrit. À côté de ces prêtres locaux, vous avez vu sur l'inscription d'Agileius, il existait également un Rex Sacrorum, un roi des rites à Lanuvium. Romain et non originaire de Lanuvium étaient en revanche les prêtres de Lanuvium, les sacerdotesses Lanuvini, dont plusieurs sont connus par des inscriptions, comme ce personnage, ce Pacideius Carpianus, splendide chevalier romain, hein, splendidissimus eques romanus, revêtu du sacerdoce de Lanuvium, qui est honoré en Campanie, comme vous le voyez. L'exemple de Lanuvium, qui est bien connu en raison de l'assassinat de Milon, peut donc parfaitement illustrer ce qui s'est passé à Lavinium, même si la situation y est différente, puisque à Lavinium, la cité proprement dite s'est éteinte et qu'il n'y avait plus de peuple rituel des Laurentes Lavinates, alors que Lanuvium a continué comme cité sous l'Empire. En tout cas, pour notre enquête, nous constatons une fois de plus que le sanctuaire de Juno Sospita, de Lanuvium, était désormais un culte public romain, un lieu de culte public romain. Cela veut dire que les actes religieux des consuls ou prêtres romains possèdent une valeur juridique immédiate. Ils sont en quelque sorte à Rome quand ils célèbrent ce culte. On peut dire, comme Tite-Live pour les rites du Mont Albin, à Rome, ils célébrèrent le sacrifice à Junon Sospita, à cet endroit dont restent juste quelques bouts de piliers et de murs. Nous sommes à Rome, nous sommes dans un sanctuaire du territoire romain. Nous verrons plus loin d'autres exemples, moins clairs toutefois. Pour notre propos, les sites de Beauvillet, de Lavinium et de Lanuvium, qui sont respectivement éloignés de 10, 19 et 20 milles de Rome, et vraisemblablement aussi le Monte Cavo, joint à la convocation des matrones jusqu'au dixième mille, prouve très clairement que dès le IVe siècle avant notre ère, la notion de territoire n'a plus aucun rapport avec la limite de 5-6 milles de Rome. Il y a des lieux de culte publics partout, et les habitants jusqu'au dixième mille sont censés participer au culte de la ville. Et si nous prenons en considération le fait que la rive droite du Tibre n'a pu être occupée qu'à partir de la fin du Ve siècle ou du début du IVe siècle avant notre ère, et qu'il en allait sans doute pareillement avant la deuxième moitié du IVe sur la rive gauche, pour les terres situées au-delà des 4 à 6 000, nous constatons que l'Ager Romanus Anticus, celui dont parlent les Romains, est bien particulier. Certains cultes sont attestés au IVe, IIIe siècle, d'autres bien plus tard. Mais dès le IVe siècle, des lieux de culte romains se trouvent à 20 000 de Rome. Pour comprendre ces incohérences, on voit que ça n'a aucune cohérence avec ce que les historiens disent, il convient de revenir un instant sur la notion d'ager. Le territoire des villes antiques n'était pas continu. Il était la somme de toutes les terres qui étaient sous la souveraineté d'une cité, que ces terres soient contiguës ou non. Et les exemples sont nombreux de cités qui possèdent des terres sur le territoire d'autres cités. La cité de Naples possédait ainsi des terres en Crète, et c'était en Crète une partie du territoire de Naples. Sans aller aussi loin, le sanctuaire des sources du Clitumne en offre un bel exemple. Il n'est pas besoin d'entrer dans les détails. Le célèbre site de la source qui conflue un peu plus loin avec le Tibre appartenait à la nation ombrienne au départ. Après la conquête romaine, la source et le lieu de culte furent attribués, donc en 241 avant notre ère, à la colonie latine de Spolète. Et vous avez la ville en bas. Comme un commentateur de Virgile nous l'apprend, le sanctuaire marquait désormais les limites à peu près de la colonie. Après 27 avant notre ère, l'empereur Auguste fonda la colonie de Hispellum à quelques distances de Spolète. À quelques distances de Spolète, n'est-ce pas ? Vous avez Spolète en bas ici, vous avez les sources du Clitume, et il fonde la colonie de Spello, Hispellum. Et il donna à la nouvelle colonie le sanctuaire des sources du Clitume. C'est le terme exact, il donne. Or, ce dernier n'était pas situé, comme vous le voyez, sur les terres de Hispellum, aujourd'hui Spello. Mais il était séparé de celle-ci par les territoires de Fulgine, Foligno, que vous voyez là. Donc il y avait les terres de Foligno ici, quelque part, et celles de Mevagna Bevagna, chère à François d'Assise. C'est là qu'il aurait entendu et parlé avec les oiseaux. Il en allait de même pour le territoire de Rome. En fonction des guerres et des conquêtes, ce territoire variait. Et dès qu'une cité voisine était conquise, Rome s'appropriait ses lieux de culte selon des modalités variables et les modalités des traités qu'elle concluait avec les cités vaincues. Si elle était pratiquement seule dès le début à Lavinium, puisqu'il ne restait apparemment plus grand monde, elle partageait ses cultes avec les peuples latins au Monte Cavo et à Lanuvium. Et même au Monte Cavo, il pouvait y avoir certaines années, du temps de Cicéron même, des problèmes, parce qu'il fallait réunir 30 peuples latins, des délégués de 30 cités latines, et beaucoup de ces cités étaient désormais plus un ensemble de riches villas de Romains que d'une vraie cité. Et dans certains cas, il n'y avait pas de délégués, ce qui invalidait tout le sacrifice, et le sacrifice devait être recélébré une deuxième fois, et la partie fautive devait offrir les victimes pour rattraper tout cela. Donc ça montre que toutes ces cités sont en partie virtuelles, fictives, n'est-ce pas ? Les magistrats et les prêtres, en tout cas, qui se rendaient à Lavinium ou à Lanuvium, avaient la capacité de célébrer et de consacrer ce qui, normalement, en droit sacré romain, ne pouvait se faire que sur le territoire de Rome. Par conséquent, les Romains considéraient que les lieux de culte situés chez leurs anciens ennemis étaient désormais les leurs et qu'ils s'y comportaient en conformité avec leurs droits de souveraineté. Nous essayerons dans la suite d'étoffer cette conclusion. Pour l'heure, il convient de revenir à la limite des 5e et 6e milles et d'en éclairer la nature. Cette limite a en effet de quoi surprendre. Elle est en partie mythique et nous ne possédons aucune indication directe sur son existence. Et quand il existe, comme sur la Via Laurentina, un habitat archaïque près de cette limite, il se trouve en fait au 7e mille. Et de surcroît, rien ne dit qu'au 8e siècle, le territoire de Rome existait déjà en tant que tel. Car pour qu'il y ait un territoire, il faut qu'il y ait une cité et que ce territoire se soit étendu aussi loin. Or, tout ça n'est pas certain. C'est mythique en partie. D'autre part, le temple de Fors Fortuna est indéniablement attesté à la fin du 4e, au début du 3e siècle, par l'archéologie et par les sources historiques, au 6e mille de la Via Campana. Et puis, il est certain aussi qu'au début de notre ère, la limite du 5e, 6e mille existait bien, puisque toutes les sources en parlent. En témoignent les érudits, les poètes et les historiens de l'époque. Et cette limite a survécu longtemps, puisque jusqu'aux années 30 du 20e siècle, cette limite que les Romains disaient du 5e, 6e mille délimitait à la fois le territoire de l'évêché de Rome et celui de la commune de Rome. La Maliana était la limite de la commune de Rome, jusque sous Mussolini, et le début de l'évêché d'Ostie, jusqu'aux accords du Concordat, où tout cela a été en partie réformé par l'État italien et par le Vatican. Qu'est-ce que cela peut signifier ? À mon avis, et c'est ce que j'expliquerai au cours des prochains cours, la seule solution qui rende compte de toutes ces données consiste à supposer que cette limite était une création archaïsante et non un fait archaïque. Cela expliquerait que soit attribuée au territoire archaïque de Rome une frontière qui ne pouvait pas encore exister à cette époque et qui, lorsqu'elle était possible, était déjà désuète. Voilà en gros le paradoxe dont je vous parlerai au cours des prochaines fois. Je vous remercie.